Je vous propose donc une exploration scientifique pour démarrer ces carnets d'été, exploration qui va nous emmener donc au Sénégal. On va y suivre deux chercheurs qui sillonnent le monde à la recherche de nouvelles bactéries intestinales. C'est très sérieux. À terme, le projet est de réussir à créer de nouveaux types de médicaments. Cet hiver, c'est la journaliste Cécile Coumeau, spécialiste des questions de santé, qui était venue nous rendre visite à Europe 1 pour nous raconter cette aventure du microbiote. Et avant de suivre ces deux chercheurs, Mathilde Poyet et Mathieu Groussin, au fin fond du Sénégal, Cécile Coumeau nous avait expliqué ce mot magique, microbiote, Kézako.
En fait, c'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. Puis on a découvert que c'était un organe en fait à part entière, composé de 100 000 milliards de bactéries, de virus, de parasites ou encore de champignons qui vivent dans nos intestins, d'où le terme microbiote. Et le tout pèse quand même 2 kilos.
Mais on savait déjà qu'on avait des microbes dans notre système digestif.
Oui, on le sait depuis un siècle environ, mais il y a une dizaine d'années, tout a basculé en fait. Les techniques de séquençage du génome ont permis de découvrir le rôle positif de ces bactéries. Et beaucoup d'espèces étaient totalement inconnues en fait.
Alors quels sont leurs rôles justement à ces bactéries?
Alors il y en a beaucoup. Elles jouent par exemple un rôle majeur, mais c'est normal, dans la digestion. Sans certaines de ces bactéries, on ne serait pas capable en fait d'assimiler les aliments comme les fibres par exemple. Elles dopent aussi notre système immunitaire. Alors le problème c'est qu'à force de manger de la nourriture industrialisée, de prendre des antibiotiques ou encore de faire la chasse à tous les microbes qui nous entourent, eh bien certaines de ces bactéries, elles disparaissent. Et quand notre microbiote est déséquilibré, qu'il est malade en quelque sorte, eh bien on risque de développer des maladies comme les maladies chroniques de l'intestin, l'obésité, le diabète ou encore les allergies.
Alors, c'est quoi le projet des chercheurs que vous avez suivis? De régénérer notre microbiote, de le reconstituer en quelque sorte?
Alors à terme, oui, c'est vrai, mais ça va un peu plus loin en fait. L'idée, c'est d'abord de protéger cette forme de biodiversité, parce que c'est bien ça dont il s'agit en fait. Comme les ours blancs ou les coraux, les bactéries intestinales sont menacées de disparition. Donc ces chercheurs sont en train de constituer une banque de bactéries qu'on appelle le Global Microbiome Conservation.
Alors c'est très sérieux, ces chercheurs ce ne sont pas les premiers venus.
Non, ce sont deux Frenchies qui travaillent aux États-Unis, au MIT. C'est le Massachusetts Institute of Technology, c'est un peu la mecque de la recherche scientifique. Mathilde Poyet, donc vous le disiez, et Mathieu Groussin, ils ont la trentaine, ils sont microbiologistes et ensemble, ils parcourent le monde à la recherche donc, de populations qui ont encore un microbiote riche et qui est donc, lui, porteur d'espoir.
Alors, on va les suivre. Sur le terrain, justement, ils sont déjà allés dans 11 pays, dont la Thaïlande, la Malaisie, le Nigeria ou la Tanzanie. Mais là, vous les avez accompagnés, Cécile Coumeau, au Sénégal, dans un village à 700 km au sud de Dakar. Reportage.
Est-ce que quand leur maman a accouché, est-ce qu'elle avait un problème et est-ce qu'elle a dû aller à l'hôpital pour ouvrir le ventre pour accoucher? Aucune des trois.
De retour des champs, les habitants du petit village d'Andiel ont pris l'habitude de se retrouver à l'ombre d'un arbre pour des discussions un peu étranges. Mathilde Poyet et Mathieu Groussin, chercheurs au Massachusetts Institute of Technology, leur demandent s'ils sont nés par césarienne, si leur mère les a allaités, mais aussi s'ils ont pris des antibiotiques. Parce que bizarrement, cela influence ce qui se passe dans leur ventre, le microbiote. Et c'est le thème de leur recherche.
Mathieu, qui est là, et moi, on rencontre des gens dans des villages très différents, un petit peu partout dans le monde. Et cette semaine, on est ici, chez eux, on essaye de comprendre comment les bactéries évoluent et comment elles influencent notre santé. D'accord ?
Mathilde et Mathieu se sont déjà rendus dans 11 pays. Là, ils sont chez les Bédiques, un peuple ultra minoritaire au Sénégal qui a conservé un mode de vie très rural, loin de ce qui menace les bactéries intestinales. Ils doivent recruter 30 villageois pour participer à leurs recherches. Première difficulté, leur expliquer que l'on a besoin de recueillir leurs excréments.
Les gens ne savent pas trop qu'est-ce qu'on fait avec leur sel et puis est-ce qu'après, si on trouve des résultats, est-ce qu'on va leur donner les résultats, est-ce qu'on va les traiter après? Les gens se sont posés beaucoup de questions au départ.
Gérard, du centre de santé voisin, fait partie des partenaires locaux sur lesquels les chercheurs du MIT s'appuient pour préparer leur mission. Recueillir des sels, c'est quand même toucher à l'intimité. Mais chez les Bédiques, la requête passe bien, explique l'infirmier du village d'à côté.
Ils acceptent facilement, puisque nous, au niveau de Bandafassi, on fait les prélèvements des sels pour chercher la bilharziose intestinale. Avec la bilharziose intestinale, on demande de prélever les caca pour voir exactement ce qu'il en est. Il n'y a aucun problème, ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants même. Ils ont l'habitude. Chaque année, on fait ça.
Ensuite, à Andiel, comme partout ailleurs dans le monde, Mathilde et Mathieu s'assurent que tous les participants ont bien compris les enjeux. Les deux chercheurs sont très vigilants sur les règles éthiques.
Alors, tu peux lui expliquer que ça, c'est un document de consentement pour participer à l'étude. Voilà, et si elle est d'accord pour participer, ouais, du coup, je vais avoir besoin de son nom et de sa signature. Et si elle ne sait pas écrire, on peut demander à quelqu'un d'écrire son nom.
Ouais. Okay. Non, elle ne peut pas écrire.
Elle peut pas écrire. C'est toi qui écris ou c'est toi qui écris?
Au bout de quelques jours, ils ont recruté 15 hommes et 15 femmes, tous en bonne santé. C'est important pour étudier leur microbiote. Et ils ont tous répondu aux nombreuses questions sur leurs habitudes de vie.
Est-ce qu'ils mangent beaucoup de mille en ce moment?
Benda, ta grande queso. Non, ils mangent plutôt du maïs.
Et le fonio? Le fonio, tu peux lui demander pour le fonio?
Fondeng. Et ouais, cette période, oui.
Le fonio. Tous les jours?
Le fonio, cette céréale qui commence à faire fureur dans les magasins bio en Europe, c'est l'aliment de base des bédiques. Ils consomment en revanche très peu de protéines, de la gazelle parfois si les hommes sont allés chasser, et ils n'ont jamais bu un soda de leur vie. Selon Mathieu, parmi tous les peuples qu'ils ont rencontrés, les bédiques font partie de ceux qui ont une diversité alimentaire les plus faibles. Après ces longs entretiens, chacun remonte au village dans la nuit et le lendemain, avant d'aller fouler le fonio, ils arrivent tous avec leur bol de sel. Chef du village en tête, Mathilde et Mathieu sont déjà là.
Il est à peu près 7 heures, donc on vient récolter les échantillons de sel que les participants ont collecté ce matin. Donc il faut arriver très très tôt parce qu'ils vont ensuite travailler et puis nous on a besoin d'avoir des échantillons frais pour que les bactéries intestinales soient encore vivantes dans les échantillons au moment où on les manipule et au moment où on les congèle.
Maintenant, les chercheurs peuvent commencer les analyses. Installés à l'arrière du 4x4, ils font une vraie recherche de terrain.
Alors, première chose, on va regarder la quantité qu'on a et puis attribuer un, ce qu'on appelle le Bristol Scale. Donc, c'est l'échelle qui permet de classer la consistance en fait, des échantillons de sel. Donc là, clairement, on a quelque chose de particulièrement riche en eau. Donc 1, c'est vraiment le plus constipé. Et puis jusqu'à 7, la diarrhée, vraiment.
Munis de gants et de masques, Mathilde et Mathieu peuvent maintenant manipuler les précieux échantillons. À l'aide de mini-cuillères, ils mettent quelques grammes de sel dans un tube à essai.
C'est un tube qui contient un cryoprotectant qui va nous permettre de conserver les bactéries vivantes et qui ne souffriront pas de la congélation à un froid vraiment extrême. Ici, on est à moins 196 degrés Celsius. Donc, sans un cryoprotectant, les cellules exploseraient et mourraient immédiatement. Et donc, ensuite, on pourra les décongeler en laboratoire et les faire tousser comme on veut.
Après avoir pesé et mesuré tout le monde, les échantillons de sel peuvent partir à Boston. Là-bas, Mathilde et Mathieu vont extraire et cultiver les précieuses bactéries des bédiques dans des chambres anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène. Aujourd'hui, leur périple n'est pas fini, mais ils ont déjà des premiers résultats.
C'est simple, à chaque fois qu'on essaye de cultiver les bactéries à partir d'un échantillon de microbiome, on parle en dizaines d'espèces. C'est un nombre d'espèces inconnues. Honnêtement, on s'y attendait. À ce niveau-là, non, quand même pas. C'est assez fantastique. C'est parfois même à l'échelle d'un genre complet nouveau.
Le but, en cultivant et en identifiant ces bactéries, c'est évidemment de mieux comprendre pourquoi tel style de vie a tel impact sur le microbiote et à terme d'élaborer des pistes thérapeutiques pour lutter contre les maladies du monde moderne. Andiel, Cécile Coumeau, Europe 1.
Voilà la découverte de nouvelles espèces de bactéries. Quel monde étrange que celui de Mathilde et Mathieu. Cécile Coumeau, vous êtes avec nous pour nous expliquer les enjeux de cette recherche de terrain. Vous avez évoqué cette bibliothèque de bactéries en voie de disparition, c'est super. Mais est-ce qu'on a déjà des pistes de traitement contre certaines de ces maladies du monde moderne?
Oui, la première piste consiste à comparer le microbiote de personnes malades à celui de personnes en bonne santé, comme les personnes qui ont permis d'alimenter la biobanque. Ouais. Et en fonction des carences qu'on observe chez les malades, on leur donne la bactérie ou on leur donnerait la bactérie qui fait défaut, voire même un cocktail de bactéries. Autre piste, extraire des molécules de ces bactéries bénéfiques et les transformer génétiquement pour en faire des médicaments. C'est ce qu'on appelle les biothérapies.
Alors on a l'impression, en vous écoutant, que ce serait une sorte de remède miracle, les bactéries. Quelle garantie on a que c'est une stratégie gagnante?
Alors en médecine, rien n'est jamais gagné d'avance, mais certaines recherches sont très encourageantes. Un seul exemple. Avec une bactérie qui a particulièrement fait le buzz, elle s'appelle Akkermansia municipilla. on s'est aperçu qu'elle était très peu présente dans le microbiote des personnes obèses. Eh bien, si on leur donne cette bactérie en traitement, ils perdent du poids.
Génial. Qui pourra profiter de ces médicaments à terme?
Alors, j'aurais tendance à vous dire que ce sont des malades qui sont dans les pays riches, mais si nos deux chercheurs du MIT parcourent le monde, c'est justement pour que les Occidentaux, comme les habitants d'Andiel au Sénégal, puissent bénéficier des progrès de la science. Avant eux, aucun chercheur n'a étudié leur microbiote. Et si l'industrialisation continue à gagner du terrain, à terme, ces populations reculées seront touchées par les mêmes maladies chroniques que nous.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de biopiraterie? Autrement dit, qu'on utilise les bactéries de ces populations et que les labos, finalement, gagnent de l'argent grâce à cette richesse.
Et que ces populations n'en voient pas la couleur.
Exactement. En gros.
C'est un danger que les chercheurs du MIT ont intégré très tôt et ils ont mis des gros remparts éthiques, je dirais. Concrètement, un contrat stipule que les populations restent propriétaires de leurs échantillons.
D'accord.
Si un laboratoire veut les utiliser, il va devoir négocier avec des ONG qui défendront les droits de ces peuples.
Enfin, Cécile, on peut déjà tester son propre microbiote. Il y a des tests qui sont commercialisés. Ça sert à quelque chose ou c'est du folklore?
Alors pour le moment, ces tests ne sont pas très utiles, puisque même s'ils repèrent des défaillances dans votre microbiote, on manque encore de preuves pour faire le lien de cause à effet entre l'absence de telles bactéries et des symptômes, ou le risque de développer une maladie. Et puis, comme je le disais, on n'a pas encore de médicaments ni de cocktails de bactéries pour vous traiter. Or, ces tests coûtent quand même environ 300 euros.
Voilà, des tests pas très utiles et qui coûtent 300 euros. Effectivement, on peut sans doute s'en passer. Et Cécile Coumeau s'est renseignée pour savoir si Mathilde et Mathieu, nos deux super-chercheurs, étaient repartis depuis cet hiver et la diffusion de ce reportage. En fait, ils ont plutôt été bloqués par le coronavirus qui les a cloués aux États-Unis, au MIT. Et donc, en attendant, ils travaillent sur un programme de détection du virus dans les eaux usées et aussi sur le lien possible entre le microbiote et la sévérité du virus chez certains patients, évidemment. À suivre, le plastique, c'est pas fantastique. Il y en a plein les mers. En Italie, des pêcheurs ont décidé de s'organiser pour prendre part au changement. On sera à Rome dans quelques instants. On parlait de Blue Cup à Madrid et dans les carnets, on était allé au bord de la Méditerranée, en Italie, pour rencontrer des marins partis en guerre contre les déchets plastiques qui polluent la mer. Chaque jour, ils en remontent plusieurs kilos dans leurs filets. Ces déchets font des ravages sur la faune maritime et ce véritable travail d'éboueur des mers n'est autorisé que depuis quelques mois et dans certains ports seulement. Pourtant, l'Italie est le premier pollueur en Méditerranée. Certains groupes de pêcheurs témoignent de cette urgence, ont décidé d'agir sans attendre qu'une loi soit votée. Blandine Hugonnet était allée les rencontrer, ces hommes qui tentent de nettoyer la mer. Voici son reportage.
Comme chaque jour, vers 15h, les cris des goélands annoncent le retour des premiers chalutiers. Nous sommes à Anzio, une petite cité touristique du sud de la région de Rome et un des ports de pêche les plus importants de la côte méditerranéenne.
Ça, c'est du poisson friture. Ça, des sèches, des poulpes, là, des merlus.
Sur le quai, appuyé sur sa canne, Ciro observe le déchargement du haut de ses 80 ans. Il est le président de l'association locale de pêcheurs.
Là, ils sortent tout le poisson pour la crier. Ils sont partis dans la nuit et ne reviennent que maintenant.
Sauf qu'ici, après 13 heures passées en mer, le travail de ces pêcheurs ne s'arrête pas. Bottes aux pieds et combinaison orange à bretelles, Kamel et Alessio remontent sur leur bateau.
Là, on doit trier tout ce plastique. Regarde tout ce qu'on a trouvé dans la mer. Des caisses, des poubelles et même des vieilles chaussures, un sac de croquettes. C'est hallucinant, il y a tout et n'importe quoi et surtout trop de plastique.
Des bouteilles, un filet de patates. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, on remplit un ou deux gros sacs comme ça.
Tous ces déchets qu'on trouve, on les rapporte à terre et on les jette dans les containers qui sont là.
Ils appellent ça l'île écologique, une mini-décharge à quelques pas du navire. Elle a été mise en place en mars dernier par arrêté municipal et depuis, elle leur évite des centaines d'euros d'amende. Car ici, comme dans toute l'Italie, il était interdit jusque-là de débarquer le plastique sur le port, explique Angelo. Il est en train de pousser un énorme espadon sur un chariot.
En gros, avant, quand on revenait au port, on ne pouvait pas débarquer le plastique parce que c'est considéré comme un déchet toxique. Sinon, il fallait payer une société spécialisée dans la récupération. C'était notre responsabilité. Et du coup, beaucoup rejetaient dans la mer ce qu'ils avaient récupéré. Parce que si on le débarquait au port sans le déclarer, on se prenait une prune. Maintenant que c'est officiel, on peut le faire tranquillement.
Comme Angelo, ici, tout le monde s'est vite investi. Désormais, les 28 chalutiers du port déchargent chaque jour une dizaine de kilos de déchets chacun, récupérés sur une centaine de kilomètres de côte. Sauvegarder la mer, c'est une mission pour tous ces pêcheurs.
Pour nous, surtout, les chalutiers qui récupérons de tout. Nos filets, c'est comme une grande coupelle qui ramasse tout, parce qu'on pêche dans les profondeurs. En ce moment, on pêche à partir de 40 mètres jusqu'au fond. Donc, comme les balayeurs qui nettoient la rue, nous, on se doit de nettoyer la mer.
Mais vu l'étendue de la pollution en mer, c'est toute la population locale qu'il a fallu aussi mobiliser, raconte Chiro.
Le pire, c'est ces espèces de rubans en plastique qui servent à attacher les sacs poubelles. Ça, on en voit partout et ils restent en mer pour toujours. Les poissons en meurent étouffés parce qu'ils les mangent et ça reste dans leur estomac. Donc nous, comme protecteurs de la mer, on a voulu sensibiliser tout le monde, comme les enfants, pour qu'ils ramassent les déchets. Maintenant, les plaisanciers et les plongeurs d'Anzio le font aussi. Et depuis cet été, la mairie a pris un arrêté. Tout type de plastique est interdit sur les plages.
Casquette sur la tête, les mains encore mouillées, Lorenzo descend tout juste de son chalutier, le poisson volant. Le tout premier navire qui a osé rapporter le plastique à terre. Le capitaine est en colère, mais optimiste pour l'avenir.
Ah, le plastique, ça fait 50 ans qu'on en trouve. Tout le monde prend la mer pour une décharge. Les pétroliers, les bateaux de commerce, les bateaux de croisière. Mais le problème, c'est pas la pollution en mer, c'est en amont, à terre, dans les fleuves, les embouchures. Toute la crasse finit toujours dans la mer, en fait. Mais je crois qu'on est utile quand même. Ça se voit dans nos filets qu'il y a moins de machins en plastique au milieu de nos poissons, alors qu'on a commencé il y a moins d'un an.
Mais Lorenzo est inquiet. Parfois, il ne peut pas aller au large pendant des jours. Les poissons se font de plus en plus rares. Alors, quitte à faire le pêcheur de plastique, il voudrait que sa nouvelle activité soit reconnue.
C'est tout un travail qu'on doit faire en plus, et sans prendre un euro au passage. Jusqu'à maintenant, on fait tout gratuitement. Donc, comme on est déjà en difficulté pour continuer à travailler, si un ministre nous propose une sorte de prime ou une réduction de nos taxes, ça nous donnera un bon coup de main. Bon, j'aime pas trop qu'on nous appelle les éboueurs des mers, même si mon métier est clairement en train de changer. Mais je préfère plutôt dire qu'on est les gardiens de la mer. Moi, la mer, c'est toute ma vie.
Face à Lorenzo, les containers à déchets débordent. Ils seront vidés le lendemain au petit matin par les camions poubelles de la ville. Direction le centre de tri local pour un recyclage spécifique du plastique. Toute une organisation qui fait tache d'huile en Italie, prenant Anzio comme modèle sur les côtes italiennes. De plus en plus de collectifs de pêcheurs décident à leur tour de partir à la chasse au plastique et d'organiser à terre un ramassage légal avec les autorités locales. Anzio, Blandine Hugonnet, Europe 1.
Et depuis le tournage de ce reportage, Blandine Hugonnet nous indiquait que des initiatives s'étaient multipliées, toujours localement, en Sardaigne par exemple, fin juin, ou sur la côte adriatique ces derniers mois. Cet hiver, Blandine nous avait donné quelques précisions sur ce que ces initiatives locales avaient déclenché sur le plan national. Écoutez.
En fait, une loi est en cours d'examen. Ici, elle s'appelle « Sauver la mer ». Et justement, l'idée, c'est de rendre légal ce travail des boueurs des mers et aussi de l'encourager. Les pêcheurs bénévoles ne seront pas aidés financièrement, mais ils auront droit à une sorte de label écologique. En tout cas, cette pêche au plastique ne leur coûterait rien puisque les communes s'occuperont de tout. Installer les décharges dans les ports, prévoir le transport vers les centres de tri spécifiques au traitement des matières plastiques. Et les syndicats, eux, proposent d'aller encore plus loin. Ils voudraient un système d'économie circulaire où le plastique serait recyclé en hydrocarbures pour alimenter les moteurs des chalutiers. Alors comment financer tout ça ? Eh bien, grâce aux citoyens. La loi prévoit de gonfler un peu l'impôt sur les déchets déjà payés par les propriétaires italiens. Et ce texte a eu le feu vert des députés il y a un mois et il attend maintenant celui des sénateurs.
Alors ok pour l'économie circulaire notamment, mais l'objectif est d'abord écologique, j'imagine, car l'Italie a une dette envers la mer, hein ?
Oui, alors il faut comprendre que les deux tiers de l'Italie sont cernés par la mer et que chaque jour, plus de 1000 tonnes de plastique s'y déversent directement, ce qui fait que la péninsule est un des plus gros pollueurs en Méditerranée. D'ailleurs, l'eau sale et les plages polluées, ça fait fuir les touristes et représente une perte de 67 millions d'euros chaque année. Selon les calculs des organisations de protection de la nature, si rien n'est fait d'ici 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et le ministre italien de l'Environnement a même parlé d'urgence planétaire.
Alors justement, est-ce que les politiques italiens se sont saisis de ces questions environnementales ?
Disons que l'intérêt des politiques est plutôt récent. En Italie, le ministère de l'Environnement a été créé par la gauche en 1986, c'est-à-dire 15 ans après la France. Et le premier décret de l'histoire de la République italienne concernant le climat, il a été validé il y a seulement 10 jours.
Il prévoit tard que jamais.
Il prévoit des mesures d'urgence comme replanter des arbres dans les villes, favoriser les transports électriques, les énergies renouvelables. Il faut dire que le bilan bilan de la botte est alarmant. Par exemple, en Europe, c'est en Italie qu'on meurt le plus de la pollution aux particules fines. Mais le pays essaie de se rattraper. Hein. Une Italie plus verte, c'est une priorité pour le gouvernement. L'exécutif veut un impôt sur le plastique dès 2020, une taxe de 50 centimes sur chaque kilo d'emballage non recyclable. Et puis, dans un an, à la rentrée scolaire, les petits Italiens devront suivre 33 heures de cours sur l'année sur les changements climatiques et l'écologie. Et là, l'Italie est précurseur, c'est une première mondiale.
Quelle bonne idée des cours sur l'écologie. Et on a vu cette année encore d'ailleurs que les jeunes étaient souvent en première ligne pour exiger une meilleure protection de la planète. Quant à cette loi, Salve Mare, Sauver la mer, elle est toujours en cours de discussion au Sénat italien. Tout semble avoir été décalé par la Covid-19. Belle énergie en tout cas de ces pêcheurs de la région de Rome, éboueurs et gardiens de la mer. Dans quelques instants, c'est à une rencontre que je vous convie avec une grande dame, l'auteur des monologues du vagin. Yves Hensler nous avait rendu visite dans les carnets sur Europe 1. C'est un texte extrêmement fort sur la sexualité féminine, joué depuis plus de 20 ans dans plus de 140 pays et en 48 langues. La dramaturge Yves Hensler est une femme très engagée depuis toujours, depuis que son père a abusé d'elle petite et qu'elle a eu la force de s'en sortir. J'avais rencontré Yves Hensler quand elle est venue à Paris au moment de la publication en français de son dernier livre qui s'appelle tout simplement « Pardon ». Ce pardon qu'elle aurait aimé entendre de la bouche de son père et qu'elle imagine finalement plus de 30 ans après la mort de celui-ci sous forme d'une lettre. Peut-on pardonner des actes de violence sexuelle? Comment panser ses plaies lorsqu'on a été victime de tels abus? La question est d'autant plus pertinente que la parole des femmes s'est quelque peu libérée ces derniers temps. J'avais d'abord demandé à Yves Hensler pourquoi elle avait choisi de faire revenir son père, cet homme qui l'a tant fait souffrir et qui n'a jamais exprimé de remords.
C'est une bonne question, parce qu'il n'est jamais parti. Je crois que ceux qui commettent ces abus et ne s'excusent jamais, ne partent jamais. Et vous avez toujours faim de ce pardon. Et quand il était vivant, je me disais toujours, là, ça va être le moment où il va le dire, des années plus tard. Et jamais il ne l'a dit. 31 ans après sa mort, il y a toujours une part de moi qui aspire ardemment à cette demande de pardon. Parce que ne pas demander pardon, c'est ne pas reconnaître que c'est arrivé. Ils ne disent pas, la vérité est la vérité, ce que tu dis c'est bel et bien passé. Il n'y a aucun moyen de tourner la page. Et la seconde raison, je crois, c'est que je travaille dans ce mouvement pour mettre fin aux violences envers les femmes et les filles depuis plus de 25 ans. Je vois ce que les femmes ont fait, on a raconté nos histoires, on a brisé le silence, ouvert des refuges. Mais même avec MeToo récemment, quand avons-nous vu un homme s'avancer et faire des excuses publiques pour ce qu'il a fait? Jamais. En 16 000 ans de patriarcat, ok? Donc une part de moi s'est dit, peut-être que je pourrais écrire ce que j'avais besoin d'entendre, de la manière dont j'aurais aimé l'entendre. Et ça pourrait être un modèle possible pour les hommes. Et en lisant, ils se diraient, voilà quelque chose que je peux faire. Vous espérez inspirer des hommes.
Oui, ce serait une inspiration.
C'est comme un paradoxe. Vous expliquez, enfin votre père est censé expliquer que vous lui avez écrit de nombreuses lettres d'excuses quand vous étiez petite, vous étiez enfant, implorant son pardon. Quel paradoxe.
C'est un énorme paradoxe. Je demandais toujours pardon à mon père parce que je savais que c'était le seul moyen de ne plus être battu ou puni. Mais aussi, je crois que je croyais secrètement que si je m'excusais beaucoup, un jour, il dirait « je suis désolé aussi ».
On peut comparer ça au sentiment de culpabilité que les filles et les femmes expriment souvent lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales.
Complètement. Comme beaucoup de filles, pendant une grande partie de mon enfance, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais désolée. Je suis désolée. Et il y a tellement de niveaux de compréhension. Je suis désolée d'avoir été abusée. Je suis désolée d'avoir trahi ma mère quand mon père me violait. Je suis désolée de ne pas avoir pu l'arrêter. Je suis désolée d'avoir existé. Je suis désolée, je suis désolée. Je ne suis que ça, une personne désolée. Un être désolé. Et donc, écrire son pardon à lui, c'était pour moi une rédemption et une révolution.
C'est parfois dur de lire cette lettre, parce que vous y décrivez les viols entre vos 5 et 10 ans et tant d'autres violences. Votre père vous battait, vous l'avez dit, il menaçait de vous poignarder, vous infligeait des brimades, des humiliations. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous dénigrer, vous décrivant aux autres comme une menteuse, une fille injuste, et ça jusqu'aux derniers instants de sa vie. Vous partagez avec nous tous ces actes terribles. Est-ce que vous avez essayé d'expliquer, au fond, ce qui n'a pas de sens?
Écoutez, ce n'est peut-être pas sensé. C'est une évocation, un exercice imaginaire. Mais je crois que nous devons regarder derrière tous ces comportements terribles pour en comprendre l'origine. Sinon, on ne brisera jamais ce cycle de punition et de violence. Et je crois qu'il y a une différence entre explication et justification. Dans ce livre, j'ai voulu que mon père remonte dans son enfance et se demande « qu'est-ce qui m'est arrivé ?» avec cette éducation patriarcale, le fait d'avoir été adoré, adoré, pas aimé, par ma mère. Tout ce qui a créé cette inhumanité en moi, ne pas avoir eu le droit d'être vulnérable, d'être tendre, ne pas avoir eu le droit de pleurer ou d'avoir des doutes ou de se questionner. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne cet homme qui a violé sa fille sexuellement et physiquement ?
Expliquer, mais pas excuser.
Exactement. Expliquer, mais pas justifier.
Cette lettre parle aussi de résistance. Personne ne s'est interposé dans la famille, personne ne vous a aidé, mais vous l'avez fait. Vous avez réussi à vous mettre hors de portée et à vous reconstruire, toute seule.
Plus tard, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. Mes enfants, j'avais des amis imaginaires que je pouvais appeler et qui allaient venir s'occuper de moi. Ils étaient toujours sur le point d'arriver. Et je crois que mon imagination, c'est la chose qui m'a permis de continuer. J'imaginais un autre futur dans une autre famille. J'imaginais que j'avais des amis. Et je crois que d'une certaine manière, c'est ce qu'on devrait continuer de faire aujourd'hui. Face à la catastrophe climatique, à l'extinction qui nous guette, on doit vraiment faire un effort d'imagination pour voir un monde dans lequel on pourrait et on voudrait vivre. Et ce n'est pas le nôtre aujourd'hui.
Vous dites aussi que lire et écrire vous ont beaucoup aidé.
Je crois qu'écrire mon journal, là encore, ça me permettait d'imaginer. Et aussi être capable d'identifier mes sentiments et de réussir à écrire ce qu'il se passait en moi. Donc, de ne plus être seule avec ça, c'est devenu un compagnon. L'écriture est devenue mon amie et je crois que cela m'a appris que l'écriture peut transformer le poison en remède, qu'on peut s'emparer de ce qui nous a presque détruit pour en faire quelque chose qui peut-être pourra être utile à d'autres.
Vous avez dit que le pardon des hommes était nécessaire aujourd'hui pour aller de l'avant. Est-ce que vous ressentez que de plus en plus d'hommes sont des partenaires dans cette bataille ?
Ce qui m'a surpris quand le livre a été publié aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est le nombre d'hommes qui m'ont écrit, le nombre d'hommes qui m'ont interviewé sur le livre, qui en ont bien parlé, qui se sont ouverts. Ça, c'est très encourageant. Et cela m'a montré qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que je ne le soupçonnais, qui cherchent des voies pour que cela change, qui ont peut-être fait des choses dont ils ont honte ou dont ils ne sont pas fiers et qui voudraient trouver une manière d'en parler, de corriger le tir, de se remettre en cause, de vraiment revenir en profondeur sur ce qu'ils ont fait, de ressentir ce que leurs victimes ont ressenti et d'assumer leurs responsabilités aussi pour s'en libérer. Parce qu'on ne fait pas quelque chose de terrible ou de mal sans le garder en soi ensuite pour toujours. Et donc, c'est une autre chose que j'ai apprise de mon père. Il erre dans les limbes depuis 31 ans parce que tout ce qu'il a fait dans cette vie-là le poursuit dans sa vie suivante.
Eve Ensler, militante féministe et auteure des monologues du vagin, qui était notre invitée cet hiver, alors que son livre était publié en français par De Noël. L'entretien s'est poursuivi. On a évoqué ses nombreuses actions en faveur des femmes victimes de violences. On se retrouve tout de suite. Ça fait plus de 25 ans qu'Eve Ensler, militante féministe américaine, se mobilise contre les violences envers les filles et les femmes. Elle qui a été victime d'inceste et de multiples violences petites. Outre l'écriture des monologues du vagin, texte fondateur pour beaucoup de femmes dans le monde, Eve Ensler a aussi créé, à la fin des années 90, le V-Day, V-V pour vagin, là encore. C'est une association qui a déjà levé plus de 100 millions de dollars pour aider les filles et les femmes victimes de violences. Car pour elle, il est important de mener des actions concrètes. C'est ce qu'elle m'avait expliqué lors de son passage à Paris dans le studio d'Europe 1.
Oui, c'est ça. On en est à notre 22e année de V-Day. Et c'est dans ce cadre aussi qu'on a lancé One Billion Rising. Un milliard de personnes se lèvent. Cette grande mobilisation mondiale qui dure depuis 7 ans dans presque 200 pays. On voudrait tellement que la France y soit impliquée. Donc j'incite vraiment les femmes ici à aller sur notre site internet, car c'est une campagne militante où les femmes se lèvent contre des formes spécifiques de violence, comme vous en connaissez en ce moment en France. Le nombre de féminicides s'envole déjà 100%. 114 femmes ont été assassinées par leur mari cette année. Les lois doivent changer, les violences conjugales doivent être prises bien plus au sérieux dans ce pays. Et ce serait une très bonne année pour que les femmes en France se lèvent.
Et pour que tout cela avance, n'importe quel pays a besoin d'argent.
Oui, exactement. Et je crois que ce que devraient faire les autorités partout, mais ici en particulier, c'est allouer des fonds de manière significative pour faire évoluer la loi, mais aussi pour former la police qui n'est pas du tout au point. Pour être sûr que les femmes sachent qu'elles peuvent aller porter plainte, que les lois ne sont plus ces textes ambigus qui les laissent au milieu du guet, et aussi pour que lorsqu'elles dénoncent la première fois des abus, on les prenne au sérieux et qu'on les protège sans attendre la 12e fois quand elles sont assassinées et que c'est trop tard.
Je voudrais qu'on écoute ensemble ce reportage. On va aller au Brésil où une femme est agressée toutes les 4 minutes. Il y a eu des lois pour lutter contre les violences conjugales, mais il y a encore beaucoup à faire. Il existe des commissariats spéciaux, mais seulement dans 10% des villes. Et à Sao Paulo, une ONG a créé un programme spécial pour offrir des soins dentaires gratuits à des femmes victimes de violences. Ces docteurs réparent les sourires des femmes, et en faisant ça, ils font encore bien plus. C'est un reportage de Marie Nodacher.
Elles arrivent maquillées, les ongles faits, bien coiffées et se prêtent au jeu devant les photographes. Une petite dizaine de femmes participent à cette séance photo sous le grand soleil printanier du parc Ibirapuera. La scène pourrait sembler banale, attendrissante, si ce n'est ces deux vigiles qui surveillent la séance photo. Ces femmes ont toutes un point commun, elles ont eu les dents brisées par un mari violent et aujourd'hui, après des mois de traitement grâce à l'ONG de dentistes Tourment de Beigne, elles immortalisent leur nouveau sourire. Solange a 44 ans et quand elle raconte son histoire, la peur se lit encore sur son visage.
Ça a commencé par des coups. J'ai été complètement défigurée, pleine d'hématomes. J'ai la peau très claire. Et puis à partir de là, j'ai été battue très souvent, de la violence physique mais aussi verbale. Aucune femme ne mérite cette vie. Et on reste traumatisée très longtemps.
Solange est suivie par un psychiatre pour dépression depuis des années. Elle a élevé ses trois garçons toute seule. Mais quand elle s'allonge dans l'herbe, au milieu des fleurs jaunes, en regardant le ciel, le temps d'une photo, elle se sent légère et s'autorise un sourire. Le résultat de longs mois de soins dentaires.
J'ai adoré mon traitement. Je peux sourire, montrer mes dents. J'ai une prothèse à la place des dents cassées. Mes cicatrices sont encore ici et là, au-dessus de l'œil. Mais ce qui compte, c'est cette nouvelle vie.
Depuis 2012, le programme Apollonia de l'ONG identifie les femmes victimes de violences. Elles doivent avoir porté plainte officiellement et les mettent en relation avec un dentiste bénévole de son réseau. Dans son cabinet, près de l'avenue Paulista, Luciana Brusaging, dentiste depuis 20 ans, soigne gratuitement deux femmes, des patientes très fragiles. Elle raconte qu'il faut prendre le temps d'écouter ses parcours marqués par les coups et les humiliations.
Parfois, elles n'ont pas d'argent pour payer le bus. Parfois, il y a eu une dispute avant notre rendez-vous et elles ne viennent pas. Parfois, c'est un portable cassé, détruit par le mari. Ce sont des situations très délicates et il faut avoir de l'empathie. C'est déjà arrivé que j'ai un trou dans mon agenda, alors je sais que quelque chose est arrivé.
Au cours de leur traitement, ces femmes confient à Luciana leur rêve de porter du rouge à lèvres quand leur sourire sera reconstruit d'ici quelques mois. La dentiste me montre les photos de la bouche d'une de ses patientes au premier jour. Des images très dures.
Vous voyez ici des abcès. C'est très mauvais pour sa santé, ces foyers infectieux. Des restes de racines de dents qui ont fini par tomber. Elle a une prothèse des dents devant totalement détruite. C'est le signe de quelqu'un qui n'a jamais pu se soigner. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un sourire inversé. Les lèvres penchent vers le bas, elle a un air très triste. Mais quand on installe la prothèse, c'est incroyable ce que ça change la physionomie de son visage.
C'est justement cet avant-après qu'a souhaité montrer l'ONG à l'occasion d'une exposition de photos qui a eu lieu fin novembre, une initiative très émouvante avec côte à côte les portraits de ces femmes avant puis après leur traitement tournés vers leur nouvelle vie. À São Paulo, Marino Dacher, Europe 1.
Evensler, les nouveaux sourires de ces femmes, c'est de la confiance en soi et de l'émancipation.
Je crois, oui. Je crois que quand votre apparence physique a été détruite par la violence, c'est très dur de s'en remettre. Ça me rappelle ces femmes avec lesquelles j'étais au Pakistan, brûlées à l'acide, ou ces femmes au Congo, dont les corps avaient été complètement détruits.
Là-bas, en RDC, vous avez cofondé la Cité de la Joie avec le docteur Mukwege, qui l'an dernier a eu le prix Nobel de la paix. Et c'est un endroit où les femmes victimes de terribles violences peuvent transformer leur souffrance en pouvoir.
Oui, cofondée aussi avec Christine Schuller Deskriver, qui en est la directrice, et elle est pour beaucoup dans la réussite. Et oui, c'est absolument époustouflant, c'est vraiment un modèle pour moi. Comme ce que font ces dentistes, comment, en aimant ces femmes, on leur apporte la sécurité, la confiance en soi, la sûreté dont elles ont besoin pour avancer dans le monde. Et je crois que c'est l'un des plus beaux programmes que j'ai jamais vu. Ça dure 6 mois, les femmes sont là, elles sont nourries, on leur offre une thérapie. Elles apprennent la permaculture, leurs droits, l'autodéfense. Elles sont choyées et nourries avec du théâtre, des chants, des danses. Et quand elles repartent, ce sont des leaders. Vous savez, on dit qu'elles passent de victimes à survivantes, à leaders pendant ces 6 mois. Les femmes apprennent à transformer leur douleur en pouvoir. Et 1300 femmes déjà ont suivi ce programme. Elles sont devenues leaders dans leur communauté, transformant beaucoup de choses autour d'elles. Et on a aussi une ferme fantastique où des femmes vont maintenant apprendre la permaculture après avoir fini leur programme, et comme ça, elles repartiront chez elles en apportant ces nouvelles techniques de culture.
Evensler, comment expliquez-vous que votre pays se soit opposé à une résolution des Nations Unies condamnant le viol comme arme de guerre? C'est incroyable, avec pour seul argument qu'ils sont contre l'avortement.
Je ne sais pas qui peut se sentir encore appartenir à ce pays dans ce genre de cas. En tout cas, ce n'est pas mon président et pas mon administration. Je crois qu'on s'est fait déborder par un fou qui est fasciste, raciste et misogyne. On a là un prédateur en chef qui a été accusé par 25 femmes de violences sexuelles, ok? Donc, faut-il être surpris qu'ils ne voient pas le viol comme un crime? Que si vous avez été violé, il y a de bonnes chances que vous ne vouliez pas porter le bébé de votre violeur et que vous voulez avoir la maîtrise de votre corps? Mais ce sont les mêmes qui n'ont pas signé non plus l'accord de Paris. Leur attitude envers les corps des femmes et la terre est globalement la même. Dans les deux cas, ils voient des corps qui peuvent être conquis, violés, dominés, qui peuvent être forés, fracturés, ruinés, sans conséquences. Et tout ça pour obtenir plus d'argent, plus de satisfaction, plus que ces hommes de pouvoir peuvent arracher à la fois au corps des femmes et de la terre.
Il y a deux Amériques.
Oui, il y a vraiment deux Amériques. Et qui sont vraiment en train de se combattre là. Et j'ai très peur que le prédateur en chef se soit mis dans la poche ce ventre mou de l'Amérique qui a toujours été là. Je veux dire, la guerre civile n'a jamais vraiment cessé. La misogynie, le racisme ont toujours existé. Mais là, on a la possibilité de changer les choses, d'admettre qu'elles existent et de faire ce travail de pardon dont je parle dans le livre. Ou alors on va aller dans une direction absolument terrifiante.
Dans un livre que vous aviez écrit en 2013, vous disiez que vous vous sentiez exilé de votre propre corps et que vous cherchiez un moyen d'y retourner. Est-ce que votre tête a finalement retrouvé votre corps?
Oui, ça y est. Quand j'ai joué ma pièce dans le corps du monde, il y a environ un an, là j'ai vraiment senti que j'étais dans mon corps. J'ai déménagé à la campagne et je vis parmi les arbres, avec les animaux, avec les rivières. Et ça m'a rattaché à la nature. Et cette connexion m'a ramené dans mon propre corps. Et je crois que terminer ce livre, pardon, était la dernière chose qui me permettait enfin de rentrer à la maison, dans mon corps.
Vous voulez dire que le vieux est finalement parti?
Vieil homme, va-t'en. C'est ce qu'il dit à la fin. Il est parti.
Voilà, ce sont les derniers mots de ce livre très poignant d'Evensler. Pardon, c'est son titre et l'éditeur, c'est De Noël. Et ses propos sur les deux Amériques et cette guerre civile qui n'a jamais cessé, selon elle, font aussi clairement écho aux demandes de pardon et même de réparation des Africains-Américains depuis la mort de George Floyd fin mai à Minneapolis. Tout cela fait écho. Et la voix d'Evensler en français, c'était celle de Pauline Jacquot. Merci à elle. À suivre, un petit tour en autistan avant de se quitter avec Joseph Chovanec, qui remarque souvent les toutes petites choses. Joseph nous guide dans ses souvenirs de voyage avec sa double casquette de philosophe et autiste Asperger. Et il nous emmène souvent dans une autre dimension, en l'occurrence dans la dimension du tout petit, la miniature.
Quand on est à Berlin, on peut voir les restes de ce mur des grandes constructions soviétiques. Et quand on voyage, c'est souvent ce que l'on retient et ce que l'on prend en photo que cette très grosse réalisation. Mmh. Et la fierté nationale repose souvent sur elle. Mais rarement on s'intéresse à l'inverse, à ce qui est petit, tout petit. Pendant mes séjours en Iran, j'avais été intrigué de voir combien les Iraniens étaient fiers de l'aptitude de leurs artisans à travailler les plus minuscules détails. Je n'oublierai jamais la jubilation de ce bibliothécaire dans la ville sainte de Qom quand il m'avait montré un Coran de la taille d'un demi-timbre, entièrement écrit à la main, avec un seul cheveu en guise de plume.
Qu'est-ce qui vous a récemment replongé dans cette dimension du minuscule ?
Sophie, tout ce qui est infiniment petit, j'y suis retombé un peu par hasard. Jeudi dernier, peut-être que c'était la magie d'avant Noël. J'ai découvert en tout cas un endroit hors du commun, à savoir le Spielzeugweltenmuseum de Bâle. Il s'agit littéralement du musée des mondes du jouet. En fait, il s'agit plutôt d'un monde parallèle bâti autour de la miniature, où soi-même on se sent quelque part à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte.
C'est tout vous, ça.
Exactement. Alors, le musée de Bâle a sans doute la plus belle collection au monde d'ours en peluche et de maisons de poupées. Alors c'est très simple. Quand on arrive dans la salle des ours par laquelle normalement on commence la visite, impossible de ne pas se croire chez Harry Potter. Ils sont partout, de toute taille, de tout âge, en train de s'adonner à leurs activités quotidiennes. Ce sont en fait les nôtres, hein, chefs de gare, vacanciers, policiers, etc. C'est cela le point remarquable de musée. Il ne s'agit pas que d'un empilement, si j'ose dire, autistique d'objets systématiques, massifs par le nombre. Il s'agit d'objets vivants, comme s'ils existaient à l'instar des humains, avec leur petite vie secrète dont on aurait un bref mais enivrant aperçu.
Mais ce sont des automates, vos ours ?
Oh non, ce sont des ours vivants. Ah, l'étage suivant, c'est celui des maisons de poupées. De nos jours, on peine à comprendre l'importance de ce genre artistique, en particulier à la fin du 19e siècle, où ce fut l'apogée vraiment des maisons de poupées. À l'époque, il était relativement courant de consacrer une bonne partie de sa vie à entretenir des maisons de poupées. Des magazines spécialisés existaient. Il y avait des artisans d'une virtuosité extraordinaire. Je suis resté songeur, par exemple, devant la réalisation d'une maison en particulier où les poupées étaient couturières et se faisaient des robes, le tout avec moins de 10 cm de hauteur. Et c'est là que j'ai fait le lien avec une visite que j'avais précédemment effectuée, presque oubliée d'ailleurs, au Rijksmuseum d'Amsterdam, qui lui aussi a sa fabuleuse collection de maisons de poupées. Un panneau descriptif de cet art, il disait que les maisons de poupées étaient sur bien des points les maisons les plus représentatives de l'âme d'une époque.
Un peu comme des maisons témoins, quoi.
Oui, Sophie, elle a raison. Est très simple, c'est qu'on n'a que très peu de descriptions concrètes de la vie quotidienne ou scolaire des siècles écoulés. Les gens ne mettaient pas ces détails par écrit, en particulier ce qui était considéré comme le quotidien féminin. Les maisons de poupées sont parfois les seules, si j'ose dire, capsules temporelles venues d'un pas si lointain passé. J'aurais beaucoup aimé rencontrer l'une des personnes ayant consacré leur vie à la maison de poupées plus qu'à la maison grand format.
Là, on est en plein autistan, là.
Ah oui. Oui, je crois qu'il y a des diagnostics d'autisme qui se sont perdus. Et peut-être qu'au fond, qu'il y a quelque chose de profondément humain dans tout cela. Quand le monde traverse mille épreuves, n'est pas plaisant à vivre, il faut savoir bâtir son univers intérieur miniature. Est-ce que c'est la leçon secrète du bonheur ? En dialecte alémanique de Suisse, on dirait « Des dümmt schibur hat die größte Herdöpfel ». Donc c'est le paysan le plus bête qui a les plus grosses pommes de terre.
Mais où allez-vous chercher vos dictons ?
Ah, en voyage !
Toujours en voyage. Et c'est sur cette touche poétique signée Joseph que je sonne la fin de ces carnets d'été. La fin pour aujourd'hui, mais on vous en prépare d'autres, bien sûr, avec Marc Fréjean et Florence Jumalac. Merci de nous avoir accompagnés. Rendez-vous dimanche prochain dès 13h. Et d'ici là, bâtissez bien vos univers intérieurs miniatures et surtout, portez-vous bien !